d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Monde d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Et nous recevons ce soir Lisiane Manchin, de blog littéraire Bibliolingus. Mais on ne commence pas par la littérature, mais malheureusement par quelque chose de bien plus prosaïque, l'actualité. Et l'actualité selon Jean-Marc, qui commence par nous parler, on se demande pourquoi, de Benalla.
Alors, je commence à vous parler de Benalla parce que d'abord, c'est un feuilleton rigolo et que les feuilletons, c'est toujours agréable, que ce soit en papier ou à la télévision ou dans les informations. Alors, Benalla ne nous déçoit pas. Et l'un des plus beaux fleurons de la politique princière de Macron est tout de même ce jeune homme sous-qualifié mais surpayé par le simple bon vouloir du prince et dont les passe-droits hallucinants font vaciller le système. Mais comme dans tout bon feuilleton, on n'est jamais déçu par l'épisode nouveau. Et comme dans les feuilletons de Naguère, plus c'est gros, plus ça passe. Aussi apprend-on cette semaine qu'après avoir été, après avoir détenu, porté, exhibé des armes sans permis, après avoir arrêté des gens sans être flic, molesté des manifestants avec des équipements de flic tout en étant toujours pas flic, insulté le Sénat, laissé sa porte ouverte pour que des cambrioleurs, c'est pas de chance, emportent juste ce qu'il fallait emporter de compromettant pour le roi Macron.
Mais il n'a pas de chance.
Voilà, il n'a pas de chance, sans toucher à rien d'autre. Vraiment, ils sont pas doués, ces cambrioleurs. Après avoir raconté tout et son contraire, le vrai faux garde du corps, qui n'avait pas de fonction, mais était tout de même vachement bien payé, a créé une boîte de sécurité privée qui marche du tonnerre. Il est vrai que j'aurais bien envie, si j'avais du pognon et des intérêts à protéger, de m'adresser à un malade, roublard, menteur, violent et autres qualités. Mais dans la Startup Nation des marcheurs, rien ne peut plus étonner, à part peut-être la caricature de l'ancien monde que représente le nouveau à la sauce Jupiter.
À la sauce Jupiter, mais ça c'est un truc qui est un petit peu écœurant. D'ailleurs tu vas nous faire maintenant...
D'ailleurs, on est très Jupiter à terre.
On est très Jupiter. Mais on va faire maintenant tes chroniques écœurantes. Tu veux faire tes chroniques à vomir. Et la première, déjà rien que le titre, c'est « Le pape François sort du bois ».
Eh oui, eh oui. Beaucoup avaient espéré, après Jean-Paul II et ce cher Ratzinger, qui étaient quand même des gros vieux fachos très, très radicaux, dans le sens ecclésiastique, le pire du terme, le François de la Pampa ne pouvait qu'apparaître que comme sympathique. Mais le jésuite qu'il est, a tombé le masque à deux reprises il y a peu. Après avoir comparé l'homosexualité à une maladie, comme c'est nouveau, comme Antienne, le voilà qui compare l'IVG à un meurtre commis par un tueur à gages. Tout en finesse, donc, le pape revient aux fondamentaux de l'Église. Comme quoi, il est toujours plus facile au Vatican de se faire du PD ou de condamner des femmes, après tout, c'est fait pour ça une femme, que de traquer et condamner les prêtres portés sur la culotte des enfants de cœur. Allez, je vomis. Et je reviens pour la chronique suivante.
Tu sous-entendrais qu'il y a un service de com' au Vatican qui essaye de faire un petit peu changer l'opinion en lui faisant oublier certains torts en amenant d'autres, c'est ça?
Ça doit s'appeler marqué à la culotte.
D'accord. Et alors on continue dans la chrétienté, puisque charité bien ordonnée commence par la com'.
Et oui, sans honte aucune, les communicants de Jupiter, encore lui, repris sans aucun bémol par la presse qui a toujours autant de distance, ont applaudi l'arrivée, c'est fantastique, de 17 réfugiés de l'Aquarius à Paris. Accueil qui n'a rien de définitif, puisqu'il s'agira juste d'étudier les dossiers et d'utiliser les éléments de langage de l'Élysée sur la part de la France dans la solidarité européenne. C'est pas joli, ça? Ce ne serait pas mortel, au sens propre, que cela pourrait faire rire. 17 réfugiés accueillis à Paris en un grand sang de trompe, dont la moitié vont être sans doute revirés dehors dans quelques mois, pour 67 millions de Français, 17 réfugiés comparés aux 4 à 5 000 morts qui pourrissent en Méditerranée. Allez, je vomis encore un petit coup, et puis je reviens encore une fois.
Et alors tu vas vomir maintenant sur du pain et des jeux.
Eh oui, le gouvernement qui devait être et à droite et à gauche, décidément on n'est qu'à droite et à droite, et comme tout gouvernement de droite ultralibéral, le gouvernement de ce bon Philippe, respecte les figures imposées de la droite. Alors les figures imposées de la droite, ça veut dire taxation des retraités, dégrèvement des plus riches, critique des fonctionnaires et essai de suppression de leur statut, pendant que les passe-droits se multiplient autour de Jupiter, ça c'est logique, c'est aussi très 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 droite fashion. Gel des salaires, augmentation des dividendes, tout ça est très logique. Et puis, bien sûr, attaque indispensable des retraites, on commence cette semaine. Et bien sûr, dernier grand volet des classiques de droite, les privatisations. Il ne peut pas y avoir un gouvernement de droite sans privatisation. Alors, ce qui est assez cocasse, puisqu'ils annoncent les privatisations, juste au moment où un rapport vient de tomber sur les autoroutes qui ont été privatisées, par la droite, à l'époque, et après un certain nombre d'années, on s'aperçoit que ces privatisations sont une véritable catastrophe, que, évidemment, les sociétés privées s'en sont foutues plein les fouilles, en entretenant très mal le réseau, donc ça tombe très bien. Comme ça ne marche pas, ben on va recommencer. Deux cas bien en vue, aéroport de Paris, c'est bien. C'est vrai que c'est tout à fait à mettre dans les mains du privé, surtout au moment où il y a des attentats tous les 15 jours. Ça fait plaisir. Et puis, c'est aussi des transports. Les autoroutes ont bien marché, donc les avions vont s'écraser. Ça, ce sera super sympa. Le second, c'est encore plus drôle. Il s'agit de la Française des Jeux. Alors, pourquoi la Française des Jeux ? Il faut savoir que le jeu appartient à l'État depuis Louis XIV, quand même. Louis XIV, qui était pourtant un grand gauchiste. Et même si l'on veut entrer dans la doxa libérale, rien ne peut expliquer la privatisation de la Française des Jeux. Quel est l'intérêt de mettre un service privé sur les jeux ? Le jeu, c'est en effet un bénéfice quasiment pur qui entre chaque semaine dans la poche de l'État. En admettant que la Française des Jeux serait très bien vendue, pourquoi se priver d'une recette importante et régulière ? Aucune explication possible, sauf, bien entendu, si on a très très mauvais esprit, c'est-à-dire si des investisseurs amis attendent l'opération pour se goinfrer.
Alors là, c'est presque de la diffamation. Attention.
Non, non, parce que alors ils ont bien appris, parce qu'ils sont bien de droite, donc ils font des privatisations populaires. Ça veut dire quoi, une privatisation populaire ? Ça veut dire qu'on encule deux fois le peuple. Alors, on privatise, et on le privatise en disant qu'on va privatiser et que les gens vont pouvoir acheter des actions. Sauf que comme ça, ça fait de la trésorerie aux grands groupes qui vont racheter dans 3 ans ou 4 ans la Française des Jeux, en s'arrangeant pour que les cours soient pas trop élevés à ce moment-là. Donc le peuple perd la Française des Jeux et ses revenus qui vont donc venir en diminution de l'État. Donc il faudra faire encore des économies, encore virer des fonctionnaires. Et en même temps, pour ne pas faire pleurer les gens qui vont investir, les copains, bah on, à la place les forcer à prendre des emprunts, on fait le coup de l'actionnariat populaire. Comme ça, le brave Pékin va acheter des actions et dans 3 ans, il les revend. Bénef. Allez, là, je vomis un bon coup.
Alors, on a fini les chroniques pour vomir, enfin. Mais là je ne sais même pas de quoi tu vas parler. Tu dis qu'il faut tout de suite arrêter de faire des études.
Eh oui, les études, c'est dangereux. C'est très dangereux. Et bien qu'étant professeur, je voudrais solennellement déclarer qu'il faut absolument que personne ne fasse plus d'études supérieures. Ce n'est pas à cause de Parcoursup, qui est pourtant une belle merde. Il y a d'autres raisons. Ce n'est pas à cause des difficultés récurrentes des universités, auxquelles on supprime les moyens depuis des années. Mais il est urgent de vouloir supprimer les études supérieures. Pourquoi ? Je m'appuie sur une étude scientifique qui est tombée cette semaine aussi.
L'étude faite par des universitaires, c'est ça ? Des gens qui ont fait des études ?
Non, beaucoup mieux que des universitaires, ce sont des gens d'un institut de sondage.
Ah, tu me rassures.
Ça, c'est vraiment scientifique. Voilà. Puis c'est des gens qui rapportent de l'argent, eux. Alors, l'étude tendrait à prouver que cela ne sert à rien ou à pas grand-chose pour trouver un emploi. Ça, on le savait déjà. Mais, pire encore, le fait de disposer de titres universitaires, de diplômes de grandes écoles, serait totalement déconnecté de tout rapport avec toute forme d'intelligence réelle. Et oui, je vois dubitatif, mais je vais le prouver. Il serait ainsi, d'après cette étude, absolument possible d'avoir de gros diplômes, d'accéder parfois à de hautes fonctions décisionnelles, très très bien rémunérées, sans posséder ni véritable intelligence, ni véritable culture, ni bon sens, ni sensibilité.
C'est un sondage uniquement fait sur le président des États-Unis ?
Non, c'est un sondage franco-français. L'étude menée avec un très très grand sérieux a été menée sur un échantillon de plus de 300 individus, et elle est sans appel. Plus de 80% des députés marcheurs ont fait des études supérieures. Ils avaient des emplois bien payés avant d'être élus, ce qui ne nous empêche pas d'accepter de voter n'importe quel texte pourri, sans réfléchir, de voter des textes qui favorisent uniquement les 5% les plus riches, auxquels d'ailleurs ils n'appartiennent pas, pour la plupart, et d'accepter d'avoir autant d'autonomie qu'un clébard attaché dans sa niche fiscale, bien évidemment. En conclusion, si vous ne voulez pas que vos enfants deviennent cons et malhonnêtes, ne tentez même plus de les inscrire dans le supérieur. Étude complémentaire, parce que ça ne s'arrête pas là, le vocable marcheur n'est pas innocent. Deuxième enseignement. Il a été très mal interprété depuis 2 ans à cause de son ambivalence sémantique et symbolique. Depuis presque 2 ans, en effet, il a été dit partout que le terme marcheur impliquait des personnes résolues et qui marchent vers l'avenir. Il n'en est rien. Et la pratique du pouvoir sous Macron montre à quel point cette interprétation était erronée. Il s'agit en réalité de la répartition du pouvoir dans le mouvement. Macron pense, les autres marchent, version Startup Nation de la tête et des jambes, en somme.
Eh bien, faut juste pas faire. On peut faire des études et ne pas adhérer à une marche progressive vers la Macronie, quand même. C'est un peu décorrélé, ton étude.
Non, ça se prouve tous les jours à l'Assemblée.
Ah, d'accord, tu me rassures.
Pour ceux qui ont des doutes, ils peuvent regarder les séances publiques.
Alors, on inaugure une nouvelle chronique. C'est une chronique des brefs de Jean-Marc. Alors, tout d'abord, remaniement.
Un dicton pour résumer la situation en attendant de remanier le président. Parce qu'il va falloir remanier le président un jour. C'est pas en changeant de slip qu'on nettoie les fesses.
Remaniement encore.
Alors, Johnny a été nommé ministre.
Non, il est mort, Johnny.
Pas de problème, on verra pas la différence.
Ça fait un petit peu faisant, cette chronique. Les belles époques du Figaro.
S'il te plaît, pas d'insultes.
Départ de Valls à Barcelone.
Gainsbourg sort du silence avec un nouveau titre. Il se barre alone in Barcelone. Sous-titre de l'album. Et tout le monde s'en tamponne.
Ne riez pas. 4 octobre, anniversaire de la Constitution.
Macron arrêté à Colombey pour port illégal de képi.
Et 4 octobre toujours.
Après 60 ans d'investigation, les recherches pour retrouver la démocratie sont désormais officiellement interrompues.
Et 4 octobre encore et toujours.
Comme dirait Macron, sur les traces de mon général, avec la 5e du passé faisant table rase.
Alors on change de sujet, on oublie le général. L'Aquarius bloqué à Marseille et le silence du pouvoir.
D'après certaines sources, après le traverse la rue Feignasse, les ouvrières illettrées, les Gaulois has-been et les retraités qui devraient arrêter de se plaindre, le président du franc-parler répond à ses détracteurs sur le dossier Aquarius. Mon mouvement, c'est les marcheurs, pas les nageurs, alors me cassez pas les nageoires.
On sent la profondeur de ton propos, là, j'avoue. Méditerranée, encore.
Là, je vais te virer après celle-là. Découverte d'une nouvelle espèce en Méditerranée. Après le thon blanc et le thon rouge, les écolos viennent de découvrir une nouvelle espèce appelée thon noir, dont la particularité est d'avoir des bras et des jambes à la place des nageoires.
Effectivement, on pourrait te virer un jour. Hein. On frais, c'est frais.
Le célèbre philosophe va bientôt écrire une suite à sa chronique anti-Macron, dans laquelle il parlera aussi de l'Église. Elle s'intitulera « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ».
Bref de comptoir aux Antilles. Et vous m'en mettrez bien un droit, hein?
Ça, c'était à moi de le dire.
Tu l'as mis en gras sur ta feuille.
C'était pas gras pourtant.
On enchaîne. Macron à Saint-Martin.
Après la tempête, les propriétaires se sont comportés, d'après le président, comme des gens sans doigts ni loi.
Ça, on tombe dans le macabre possible, mais toujours du macabre un peu plus triste, vraiment. Mort du dessinateur Pétillon.
Et Daesh n'a pas encore revendiqué.
Et toujours mort du dessinateur Pétillon.
Interrogé sur la question au Sénat, Benalla pensait qu'il avait une pénurie de champagne à l'Élysée. Après explication, le voilà rassuré.
C'était Pétillon.
C'était Pétillon, oui. Alors on fait une petite pause musicale quand même pour digérer tout ça. On va écouter Lucio Bukowski, Les faiseurs d'illusions sortent des lapins morts de leur chapeau.
Tu vois, ici, on est dans un quartier à majorité des personnes. C'est-à-dire que les urbanistes conçoivent des logements dits sociaux. Hein. C'est-à-dire des logements faits pour les jeunes couples qui démarrent, hein, pour les ouvriers.
Fréquence pas avec ULM, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du CAF et les membres de ATTAC.
Alors aujourd'hui, ça sera de la littérature engagée avec notre invitée Lysiane Mangin qui nous parle de son blog bibliolingus.fr. Alors ce blog, tu vas nous en parler, il contient une série de rubriques, je le décris rapidement, c'est tout simplement des chroniques de livres que tu as lus, qui t'ont parfois plu, parfois un petit peu moins.
C'est ça.
Et tu vas nous en parler. Alors, ben, une question qui s'impose quand on se met à faire un blog brutalement, la question c'est ben, pourquoi ?
Alors, j'ai créé bibliolingus.fr en janvier 2012 déjà, donc ça remonte à il y a presque 7 ans. En fait, j'ai créé mon blog donc, pour une motivation déjà personnelle qui était de garder une trace de mes lectures. Et puis après de donner envie de lire, de partager mes goûts littéraires et puis de rencontrer d'autres lecteurs et lectrices qui faisaient comme moi, qui faisaient un blog. Et après, au fil des années, ma démarche a évolué et je l'ai un peu plus précisé. En fait, mon idée avec Bibliolingus, c'est aussi de pouvoir faire connaître de la lecture engagée, de pouvoir réfléchir sur la société, pouvoir déceler un peu toutes les idées préconçues qu'on peut avoir et en fait pouvoir les questionner et pouvoir expliquer un peu les structures mentales qui justifient la société, enfin qui permettent que la société existe avec ses systèmes d'oppression. Et du coup, voilà, mon envie, c'est de pouvoir réfléchir à toutes ces questions-là. Alors, je traite différents thèmes. Je traite notamment l'inégalité économique et sociale. Ça, c'est vraiment un truc qui m'anime beaucoup. La démocratie, la politique, le patriarcat, le spécisme aussi, beaucoup, surtout ces derniers temps. Mais aussi le racisme, la question des médias, l'indépendance des médias, la manière dont on produit l'information. Et puis, en fond de tout ça, l'écologie. Effectivement, en plus, on en parle beaucoup depuis cet été, donc ça tombe bien. Et donc, mon idée, c'est aussi, au-delà de la réflexion, c'est de trouver aussi des moyens de lutte, des moyens d'action, savoir comment on peut agir à ce niveau-là. Alors, moi, j'ai pas toutes les réponses, mais j'essaie de participer à ma mesure à ça, à la réflexion. Et donc, je chronique à la fois de la littérature et à la fois des essais. Je fais aussi rarement des témoignages de la jeunesse, des illustrés. C'est vraiment essentiellement autour de la littérature, donc des romans et des nouvelles, et des essais. Voilà.
Vous avez
vu
les essais nucléaires
ou pas ? On n'est pas obligé
de répondre. Je parle aussi de nucléaire, c'est vrai.
Ah, d'accord. On n'est pas obligé de répondre à toutes les blagues de Jean-Marc. On a souvent juste un visage complètement atterré, mais ça passe pas trop à la radio, il faut bien le dire. C'est la littérature aussi, donc c'est pas simplement des idées, dans ce qu'on peut voir, c'est aussi du ressenti dans tes chroniques. Il y a aussi, finalement, comme quand on lit un livre ou un roman, il y a des envies de vivre une autre vie, peut-être, de ressentir quelque chose. Tu fais pas passer que des idées, il y a aussi de la beauté des textes.
Oui, c'est vrai que je me contente pas de présenter un texte de manière factuelle. J'essaie aussi de retransmettre dans la manière dont je vais écrire, de retransmettre aussi une émotion. Donc oui, c'est aussi pour moi un exercice de style, il faut le dire. Hein. C'est vrai que quand j'ai créé mon blog en 2012, j'étais étudiante et j'avais aussi envie de m'exercer dans mon expression écrite. Après, c'est vrai que j'essaie de ne pas spoiler, je raconte vraiment que les premières pages des romans, quand ce sont des romans, pour vraiment donner envie de lire. Après, je sais que les lecteurs et les lectrices de mon blog souvent n'ont pas lu les ouvrages, parce que c'est des ouvrages assez rares, je pense qu'on en reparlera. Et donc voilà, mon idée, c'est de donner une amorce, et puis après d'aborder toutes les thématiques qui sont présentes dans l'ouvrage, et pour que, voilà, donner envie de lire, et puis si la personne n'a pas le temps de lire, qu'elle puisse au moins savoir de quoi il retourne dans l'ouvrage. Voilà, c'est aussi quand même une chronique en elle-même qui, je pense et j'espère, est agréable à lire, même si on n'a pas lu l'ouvrage, et qui est agréable à lire, même quand on l'a lu aussi. Voilà, j'essaie de pouvoir m'adresser à ces deux types de personnes qui lisent mon blog.
Donc finalement, c'est bien aussi pour les gens qui n'ont pas forcément envie de lire tous ces livres, qui ont peut-être parfois, c'est vrai, pas le temps. Donc enfin, lire ta chronique, il n'y a pas la fin, quand c'est un roman, mais quand c'est un livre d'idées, on a l'impression d'avoir lu, on peut se la péter après en disant « Oh, j'ai lu le dernier livre, le machin, t'as vu sur la chronique ?» Donc prenons deux bonnes citations et ça marche bien. Alors justement, c'est de la littérature engagée, c'est pour ça qu'on t'a convié ici dans cette émission, « Réflexion sur la société ». Et tu vas vraiment au fond, c'est-à-dire c'est pas des petits ouvrages parfois, et puis il y a même parfois des thèmes qui reviennent fréquemment pour certainement dresser un portrait large d'une thématique. Et par exemple dans les thèmes qu'on peut prendre. Il y a des thèmes d'économie sociale, alors on aime bien ce thème ici dans l'émission. Démocratie, critique de la démocratie, politique, patriarcat, tu as déjà cité la liste. Parfait, tout ça, c'est un petit peu des idées alternatives. Et au-delà de l'idée, c'est aussi des éditions alternatives.
Oui, tout à fait. Alors effectivement, j'ai à cœur de défendre l'édition indépendante et la bibliodiversité. Alors, par édition indépendante, j'entends l'indépendance financière, c'est-à-dire des maisons d'édition qui ne sont pas rattachées à des groupes lesquels auraient des actionnaires, etc. Et l'indépendance intellectuelle, c'est-à-dire la prise de risque éditorial et l'originalité. C'est-à-dire que quand on a des maisons d'édition indépendantes qui ont peu d'argent, pour elles, publier un ouvrage, c'est toujours coûteux. C'est toujours coûteux en termes de temps, en termes de moyens, en termes d'argent. Je vais me griller, donc je ne vais pas m'avancer sur Nissen, donc voilà, l'idée c'est vraiment de défendre aussi une édition indépendante qui va publier un ouvrage, je ne sais pas moi, une traduction par ailleurs coûteuse, mais une traduction d'un roman russe, d'un roman, je ne sais pas, vous connaissez un roman hongrois, enfin voilà, c'est vrai que c'est des traductions qui sont assez rares, qui sont...
Je connais un manuel de la déportation hongrois.
Et voilà, effectivement, les maisons d'édition indépendantes prennent des risques que je souhaite valoriser. Et puis, au-delà de ça, donc ça c'est vraiment l'aspect bibliodiversité, au-delà de ça, c'est vraiment de pouvoir défendre la créativité, de donner la parole à des éditeurs qu'on entend moins. Et je défends également, j'essaie également de soutenir la librairie indépendante, et puis voilà, les auteurs et autrices qui sont peu connus. Donc c'est vrai que mon blog regroupe, c'est pas une exclusivité non plus, hein, je cherche pas à me dire voilà, je vais publier une chronique sur tel ouvrage parce que c'est indépendant. Je vais le faire d'abord parce que c'est dans mon parcours de lecture, parce que c'est ce que j'ai envie de mettre en avant. Et puis si c'est une maison d'édition indépendante, tant mieux. Et à l'heure actuelle, il y a une quarantaine de maisons d'édition indépendantes qui sont représentées sur mon blog. Donc, bon, c'est pas non plus la folie, mais c'est déjà un travail à mon échelle que j'aime faire. Et après, voilà, donc tout n'est pas noir et blanc, mais c'est vrai que voilà, j'aime défendre l'édition indépendante pour toutes ces raisons.
D'autant que certaines de ces boîtes, comme tu le dis, d'éditeurs indépendants, font face à des difficultés économiques récurrentes.
Tout à fait.
Meurent et vivent comme beaucoup d'éditions. Et que de redonner un tant soit peu de place médiatique, c'est quelque chose d'important. Tu peux peut-être d'ailleurs citer quelques-unes de ces boîtes.
Alors oui, je défends notamment les éditions Utopia, que j'aime beaucoup. Les éditions Libres, qui ont publié le Peter Gelderlos, Comment la non-violence protège l'État. C'est un bouquin que, si on n'avait pas lu, il faudra vraiment le lire, et j'en publierai la chronique bientôt. Les éditions La Fabrique, les éditions L'Échappée aussi, Le Muscadier, Agone. Alors là, je reconnais que je citais beaucoup d'éditeurs d'essais, mais il y a aussi Tusitala, Liana Lévy, enfin voilà, il y en a quelques-unes. Et après, c'est vrai que donc, tu parlais de difficultés économiques, c'est certain que l'édition indépendante, le problème qu'elle a, c'est qu'elle n'a pas la force de frappe suffisante pour pouvoir être présente dans toutes les librairies. Elle ne peut pas faire des tirages très élevés non plus. Elle n'a pas la capacité de pouvoir être présente dans les journaux, parce que voilà, les journaux sont également... les médias en général sont assaillis par tous les éditeurs et éditrices qui souhaitent présenter leurs ouvrages. Ils ne sont pas présentés dans les prix littéraires. Donc de plus en plus, il y a des prix littéraires indépendants. Et donc j'estime que moi, à mon échelle, Bibliolingus n'a pas forcément nécessité à présenter, à être un énième blog d'édition pas indépendante, quoi. Donc voilà, c'est là que j'estime avoir un petit rôle à jouer, quoi.
Et alors on sent derrière que tu n'es pas que blogueuse bénévole, il y a certainement un engagement même professionnel dans le monde de l'édition et dans l'édition engagée.
Oui, parce qu'effectivement... au-delà de mon activité blogueuse qui est totalement bénévole et qui représente au moins une demi-journée ou une journée par semaine, donc j'y passe vraiment beaucoup de temps. Au-delà de cette activité-là, je travaille en fait en tant qu'éditrice en freelance. Je suis éditrice et correctrice et je suis à temps partiel également dans une maison d'édition associative qui fait des sciences humaines. Ce sont les éditions Charles-Léopold Mayer. Et puis, donc ça, ce sont mes deux activités rémunérées, celles qui me font vivre. Mais après, au-delà de ça, j'ai aussi une association, j'ai coordonné une association Alter Libris depuis 2014, et qui défend, en fait, c'est une librairie qui défend les éditeurs au statut associatif, et vous avez accueilli Stéphane Maril en février dernier. Et puis après, quand j'ai encore un petit peu de temps avec tout ça, je participe aux activités de Debout Éducation Populaire qui se tient Place de la République tous les week-ends. Là, l'équipe est en train de coloniser d'autres places de Paris, mais voilà, c'est vrai que j'ai à cœur, avec toutes mes activités, de nourrir le débat, de conscientiser les gens, de parler davantage de politique et... Et effectivement, voilà, toutes ces activités-là sont assez cohérentes et assez monomaniaques du livre. Je le reconnais que là-dessus, je suis très, très, très libre.
Et il faut savoir montrer toutes ces capacités quand on en a et les utiliser. Et là, on ne peut pas dire que ce soit inutile, vu que c'est, comme tu vous l'as dit, une vraie défense de l'édition indépendante et derrière de plein d'idées. Hein. Et tu citais... beaucoup de thèmes, et je te cite, indépendance de la pensée, de la liberté d'expression face au capitalisme, face à une menace d'écologie, et tu emploies même le mot conscientisation, c'est un mot qui finalement, qu'un auteur aime pouvoir employer, j'ai réussi à conscientiser mes lecteurs.
Oui.
C'est un terme libertaire, on pourrait appeler ça le livre Herter.
Le livre Herter, voilà, bah, un nouveau blog à écrire, le livre Herter par Jean-Marc...
Et mon pseudo d'ailleurs, mon pseudo bibliolingus.fr, c'est libertaire avec un Y, comme Lisiane.
Ah, tout s'explique.
Oui.
Alors on va rentrer dans les détails maintenant de ce blog. Il est composé, comme on l'a dit évidemment, de chroniques de livres, mais elles sont réparties. Ça nous permettra d'aborder peut-être aussi des titres d'auteurs et de livres. Et il y a donc plusieurs rubriques, et on peut commencer par la rubrique peut-être que tu as certainement envie de mettre en avant, parce que c'est la rubrique qui s'appelle tout simplement... postérité.
Oui, rien que ça. Alors, effectivement, il y a plusieurs rubriques qui se sont accumulées au fil du temps. Les premières, historiquement, c'était postérité, éphémère et oubliette. Et puis, au fil du temps, j'ai rajouté pérenne, qui se glisse entre postérité et éphémère. Et puis, j'ai rajouté les essais, la jeunesse, les récits et les illustrés. Alors, je vais peut-être pas toutes les présenter non plus, mais... par rapport à postérité, donc vous voyez qu'il y a un critère pas forcément très défini, je le reconnais moi-même, mais pour moi l'idée c'est que postérité, ce sont des ouvrages qui vont s'inscrire dans le temps, alors c'est un jugement personnel, mais j'estime que ce sont des œuvres qui vont traverser les décennies, voire les siècles, et toujours évoquer quelque chose au lecteur ou à la lectrice d'aujourd'hui. Et par exemple, j'y ai mis Jean Mecker, dont on reparlera après. J'y ai mis Irène Némirovski, Zola, évidemment, parce que j'ai vraiment un coup de cœur pour Zola. Léonora Miano, John Fante, Pascal Manoukian. Et voilà, donc j'ai peut-être pas précisé, mais du coup, c'est un blog qui se concentre essentiellement sur la littérature du XXe siècle, hormis Zola, c'est la petite exception. Et donc après, voilà, j'ai d'autres rubriques, comme j'ai dit, donc pérenne, éphémère et oubliette. Et voilà, il y a un degré un petit peu temporel, une classification temporelle. Oubliette, par exemple, c'est des chroniques d'ouvrages qui, pour moi, ne vont pas marquer le temps, ou alors dès que je les referme, ben voilà, j'ai déjà oublié ce que c'était. Enfin, ou alors des livres foncièrement que je trouve foncièrement mauvais, ou alors qui ne m'ont pas parlé. Donc, je cherche pas non plus à dire que mon jugement est universel, c'est pas du tout ça, mais c'est mon ressenti en fait. Et puis après, j'ai donc une rubrique essai qui prend de plus en plus d'importance parce que, effectivement, au tout début de mon blog, la première année, c'était exclusivement des romans et des nouvelles. Et puis, au fil du temps, bah, voilà, j'ai commencé à chroniquer des essais. Et puis, le ratio a toujours varié au fil du temps, mais là, c'est de plus en plus. Là, ça doit être un ouvrage sur deux, c'est un essai, et puis après, c'est un roman. Donc voilà, les essais sont très présents sur mon blog. Et par exemple, si je pouvais en citer quelques-uns, je pourrais citer Planète Vegan d'Ophélie Véron, sur lequel j'ai travaillé puisque en tant que relectrice et correctrice. Ou bien Masculin-Féminin, le tome 1 de Françoise Héritier, qui est un classique en littérature féministe. Toute la collection des Monique et Michel Pinson-Charlot aussi. Et puis après, j'ai aussi quelques ouvrages de Svetlana Alexievitch, qui a travaillé beaucoup sur l'histoire sociale de l'Europe de l'Est. Et puis André Chiffrine, qui est un...
Ça existe, ça, l'Europe sociale en Europe de l'Est?
L'histoire sociale. L'histoire par les témoignages, oui. Et par exemple, voilà, André Chiffrine, qui est un éditeur qui est décédé il y a quelques années et qui a beaucoup marqué l'histoire de l'édition par ses essais autour de l'indépendance de l'édition et un petit peu aussi des médias. Et voilà, donc pour vous présenter un petit peu le genre d'ouvrage que je peux chroniquer.
Et est-ce qu'il y a des tubes à essais ? Sur le blog.
Non, c'est pas un blog de chimie, c'est un blog de littérature engagée. Tu réécouteras la chronique en podcast sur le site.
Tu veux dire des essais qui font des tubes ?
Tu pourras réécouter la chronique en podcast sur mode d'emploi, bienentendu.net. Et donc, tu parles de beaucoup d'ouvrages, mais je veux quand même témoigner aussi que ces chroniques ne sont pas très longues. Il y a une vraie volonté synthétique. Elles se lisent.
Ah bon, tu trouves ?
Alors, ça dépend. Il y en a des plus ou moins longues. Voilà, il y en a des plus ou moins longues. Et elles ont toujours une façon d'être présentées en disant une petite introduction, l'approche du livre en tant que lecteur. Des fois, on découvre un ouvrage, comment est-ce que tu l'as découvert, comment il t'est arrivé en main. C'est toujours un petit peu, on est mis en situation. Et puis après, évidemment, ça peut être plus ou moins long, suivant tes envies, j'imagine, et aussi l'intérêt du livre.
Oui, alors j'essaie de synthétiser, j'essaie de ne pas trop en dire, mais c'est vraiment difficile. Les ouvrages que j'ai beaucoup aimés, j'ai du mal à être concise, mais je m'y efforce. Après, quand il y a des ouvrages un peu courts, genre des recueils de nouvelles, je vais en raconter une. Ou alors, c'est ce qu'on appelle des petits romans, enfin je sais plus qu'on appelle ça, mais des romans de 60 à 100 pages. Là, je vais vraiment dire les deux premières pages à peine pour donner envie de lire, vraiment pour ne pas spoiler, parce que c'est un truc que je déteste pour moi-même, donc je veux pas l'infliger à quelqu'un d'autre. Mais après, non, je trouve qu'elles sont assez longues, au contraire. Enfin, je trouve qu'elles sont trop longues, mais j'arrive pas à réduire non plus trop, quoi.
Alors, si vous voulez découvrir, on ne fait pas ici un appel à bénévoles pour rejoindre le blog, mais un appel à lecteurs attentifs, à lecteurs qui ont aussi envie de découvrir d'autres livres à travers un blog, c'est bibliolingus.fr de Lisiane Mangin. Et tu vas nous faire découvrir un titre que tu écoutes souvent en écrivant tes blogs, il s'agit de Distorted Angels de Archive.
Winter is waking, calling on motion, feeling of the tears burn you to the ground. There's a fear, there's a fear.
Bonsoir, vous êtes sur 106.3, fréquence par l'éclairienne, émission Bonnes Emplois, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Et vous n'avez pas entendu Jean-Marc qui disait que nous sommes bien sur 106.3, l'émission de mode d'emploi, ici organisée par l'équipe PIAF ATTAC. Et nous recevons Lisiane Mangin pour le blog Bibliolingus, qui nous parle de littérature engagée. Et cette littérature engagée se fait par forme de chronique. Et elle va nous en parler d'une. Elle va nous décrire une chronique d'un livre qu'elle aime beaucoup. Je crois même que c'était sa toute première chronique sur le blog.
Non,
du tout. J'ai mal compris hier.
Oui.
Enfin, une chronique importante. Il s'agit de Jean Mecker, L'homme au marteau.
Oui. Alors, donc, j'ai choisi L'homme au marteau de Jean Mecker, parce que c'est que j'ai classé dans Postérité, parce que c'est un ouvrage qui m'a beaucoup marqué et qui m'apporte encore aujourd'hui. Donc, je l'avais lu en 2012, au tout début de mon blog, mais c'est pas la première. Je l'ai lu quelques mois après. Donc, L'homme au marteau a été écrit en 1943 par Jean Mecker. L'histoire se passe en 1930, dans les années 1930, au courant de l'été. Et donc c'est Augustin qui a 30 ans. Et c'est rigolo parce qu'a posteriori, bon bah moi je vais avoir 30 ans, donc ça m'évoque encore plus aujourd'hui. Donc Augustin vit à Paris et il est marié et père d'une petite fille. Et en fait, il devrait s'estimer heureux et chanceux parce que la crise économique n'est pas si loin que ça. Il a désormais un travail stable, il a une retraite assurée et c'est vrai qu'on lui dit qu'il devrait avoir il devrait s'estimer heureux de cette vie-là. Il travaille dans l'administration, dans le trésor public et son quotidien en fait est rempli de mesquinerie, de messe basse, de tout le monde craint le chef mais personne ne dit rien en face. Il s'ennuie terriblement au travail, il compte les minutes et sa vie c'est vraiment métro, boulot, dodo, c'est une vie sans passion. Et du coup Augustin est vraiment désespéré et angoissé d'avoir une vie aussi étriquée, aussi médiocre, d'avoir très peu de jours de congé, parce qu'à l'époque c'était qu'un jour par semaine, de trimer tous les jours pour un salaire de merde. Alors qu'en fait, il rêve de quelque chose de beaucoup plus grand, il rêve d'aventure et il se sent complètement humilié et il sent l'injustice. En fait, il est écrasé par sa condition sociale et il sent qu'il ne peut pas en sortir. Alors évidemment, ça c'est le début du roman. Après, il va se passer d'autres choses et je les raconte pas, ni dans la chronique, ni aujourd'hui. Mais après, c'est vrai que c'est un roman, L'homme au marteau, qui est désespérant, qui est révoltant, mais il y a quand même des moments drôles dans ce roman. Ce que j'aime aussi, c'est que on voit vraiment l'aliénation au travail, le rapport de domination avec les patrons. L'auteur lui-même a été ouvrier et il a travaillé dans l'administration, donc il sait de quoi il parle, et c'est justement ce qu'on appelle la littérature prolétarienne, et c'est ce que j'aime. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'il a un style très oral, c'est très expressif, il y a beaucoup de rage dans ce qu'il écrit. Et je retrouve cette oralité chez plusieurs autres auteurs et autrices. Déjà, je pourrais encore à nouveau citer Zola et aussi Irène Emirovski dans ces thématiques de personnes qui essaient de s'élever de leurs propres conditions sociales et qui n'y arrivent pas. Et je retrouve également ça chez Pierre Lemaître, qui a eu avec Au revoir là-haut, qui a eu le prix Goncourt en 2013. Et il y a aussi cette oralité et cette rage de la condition sociale que j'aime beaucoup. Et en fait, voilà, pour moi, L'homme au marteau de Jean Mécker, il a pris beaucoup de sens et d'importance dans mon parcours, parce qu'en fait, c'est vraiment Augustin, c'est tout ce que je ne veux pas être. Moi, je veux pas m'ennuyer à mon travail, je veux faire que des choses que j'aime, je veux vraiment donner du sens à ma vie et voilà. Donc c'est vrai que j'espère y parvenir.
Et alors, pour nous faire partager le goût de ce livre, tu vas nous lire un petit extrait.
Oui, tout à fait. Alors c'est Augustin qui parle à son épouse qui s'appelle Émilienne. Et en fait, il est en train de péter un câble parce que vraiment, il supporte pas sa vie métro boulot dodo. Tu ne comprends donc pas que c'est encore plus grave et que je suis absolument dégoûtée de la vie qu'on mène. Arriver à 30 ans, là, et puis s'apercevoir qu'on est un rien du tout vivant. Partir travailler le matin, rentrer le soir, se perdre dans des habitudes, avoir du cadavre autour de soi, n'avoir rien, rien à espérer que des petites promenades du dimanche au bois de Vincennes, sentir que tout ce qui est beau, est grand, est vrai, c'est pas pour nous, n'avoir le droit qu'à fermer sa gueule et compter ses petits sous. Tu ne comprends donc pas, Émilienne, que c'est atroce et qu'il y a des moments où on n'en peut plus.
C'était le style de Jean Mécker, un style oral, comme tu disais,
oui.
Qui permet d'entrer dans la logique, dans la tête d'un ouvrier des années 30.
C'est ça.
Enfin, d'un ouvrier, d'un homme de bureau des années 30.
Alors, mais il a été ouvrier, l'auteur a été ouvrier aussi dans sa vie. Il a écrit d'autres romans sur des ouvriers aussi.
Alors on va complètement changer de sujet et on te remercie énormément pour cette chronique.
Merci à toi.
Et on va maintenant passer à tout à fait autre chose. On va revenir à l'actualité de dans 15 jours, vu que dimanche dans une semaine, ce sera les élections au Brésil. Et va-t-on assister à la résistible ascension de Bolsonaro ?
Voilà, exactement. Je continue un peu mon tour de l'Amérique latine, hein, après avoir parlé du Venezuela l'année dernière, de l'Argentine il y a un mois. Qu'est-ce qui se passe au Brésil ? Le point commun entre les trois pays, c'est le grand retournement qui caractérise toute l'Amérique latine, le recul, le déclin justement apparemment irrésistible des gauches en général, qu'elles soient radicales ou réformistes. Et évidemment la situation, comme tu l'as dit, c'est le triomphe au premier tour de l'élection présidentielle de Bolsonaro. 46% des voix contre 29% pour Haddad, qui est le candidat du Parti des Travailleurs, du PT. Et Bolsonaro est présenté comme un Trump de l'Amérique latine, un Trump tropical. D'ailleurs, il a fait la une, je sais plus si c'était le Times ou The Economist avec ce titre-là. Un populiste de plus. Après tout, il y a des populistes partout. Il pourrait bien y en avoir un au Brésil. Et effectivement, il y a des points communs avec Trump. Il est misogyne, il est réactionnaire sur les questions sociétales. Il est anti-immigration, ce qui est quand même assez extraordinaire au Brésil, parce que c'est quand même un pays qui s'est construit sur l'immigration. Voulu ou pas voulu d'ailleurs, parlant de, c'est le pays qui a reçu le plus d'esclaves dans le monde et qui est devenu quand même plutôt ces dernières années un pays d'émigration. Si vous allez en Guyane française par exemple, on va vous parler des immigrés brésiliens. Et la seule immigration notable qui vient frapper le Brésil, c'est les Vénézuéliens qui fuient justement ce qui se passe au Venezuela. Et Bolsonaro a quand même trouvé le moyen de critiquer ça. Surtout quand on insiste là-dessus, là, c'est les points communs avec Trump, on oublie que, en fait, Bolsonaro, ça va beaucoup plus loin que Trump. C'est un anticommuniste. Et alors, anticommuniste au Brésil, ça va loin. Ça veut dire anti-syndical, anti-mouvement social, anti-droit du travail. Ce qui est alors assez marrant parce que, bon, le Brésil, c'est pas un grand pays du droit du travail. Ça n'a jamais été une grande gêne pour les patrons. Anti-mesures sociales, là encore, c'est un peu marrant parce que le Brésil, par ailleurs, c'est pas la Scandinavie. Il n'y a pas grand chose à réformer, il n'y a pas vraiment d'État-providence. C'est évidemment. Il se présente évidemment comme le pourfendeur de la délinquance et le protecteur des honnêtes gens. Et là, par contre, contrairement à son anticommunisme qui est un peu de posture, ça a un vrai sens. Parce que c'est quand même le Brésil, un des pays qui bat des records de criminalité. Et ça touche les gens quand on parle de ça. Et c'est surtout, et enfin, et c'est là où on commence à se sentir vraiment très très mal à l'aise, si tout ça n'était pas suffisant, c'est un nostalgique de la dictature. Et la dictature, elle a duré presque 20 ans, on en est sorti il y a 30 ans. Et pour mesurer à quel point c'est un nostalgique de la dictature, il a pris comme colistier, comme celui qui serait son vice-président en quête de victoire, quelqu'un qui s'appelle Hamilton Mourão, qui est un ancien général et qui a été un temps responsable d'un centre de détention pendant la dictature où on torturait les opposants. Donc, et au-delà de ça, c'est un type qui est profondément raciste. Une anecdote, il est venu il y a quelques années présenter son petit-fils à la télé, sur un plateau télé, et il était très fier de son petit-fils. Il a expliqué pourquoi. Parce que son petit-fils est blanc, vraiment blanc. Et il a dit, ben voilà, on peut limpiar la raza, on peut nettoyer la race. Donc, sympathique, monsieur Mourão.
Un bien brave homme.
Voilà. Et ça pose quand même un paradoxe, cette histoire. Bolsonaro a des résultats extraordinaires, on voit un peu à quoi il ressemble. Comment est-ce qu'en quelques années, on est passé d'un parti des travailleurs qui était triomphant, qui avait l'air d'être hégémonique, ils ont quand même gagné 4 fois de suite les élections présidentielles, au triomphe démocratique d'un candidat fasciste, qui en plus s'entoure de vieux tortionnaires racistes, dans un pays où quand même la majorité des habitants ne sont pas forcément blancs, pays très très métissé, et la majorité des habitants sont pauvres. Et donc pour essayer de comprendre ça, faut revenir un petit peu comme quand on essaye de comprendre comment Hitler est arrivé au pouvoir, faut revenir à un contexte économique et social. Ça arrive dans un contexte particulier. Donc les années Parti des Travailleurs, les années PT, en
ouais, mais alors il y a quand même une nuance. Le nazisme avec la samba, c'est quand même autre chose, quoi.
Est-ce que c'est le nazisme tropical? Je ne sais pas. Je pense pas. Mais les années PT ont été marquées par une grande prospérité du milieu des années 2000 au milieu des années 2010. Et même la crise des subprimes, qui a quand même touché le monde entier, elle est passée relativement en douceur au Brésil. Hein. Ça a été amorti. Et en fait, la récession, elle est apparue en 2015. Donc avec un recul 3,5% du PIB, confirmé l'année suivante à nouveau 3,5% du PIB. Et comme la population du pays augmente, bah en fait ça fait plus mal que ça au niveau du revenu. C'est du PIB par habitant, c'est moins 4,6 et puis moins 4,4. Donc c'est assez spectaculaire. Et évidemment la conséquence immédiate de ça, c'est une augmentation très rapide des inégalités dans un pays qui est déjà extrêmement inégalitaire. C'est-à-dire que pour donner un ordre de grandeur, hein, c'est quasiment le pays le plus inégalitaire d'Amérique latine, l'Amérique latine étant particulièrement inégalitaire. Pour trouver des pays plus inégalitaires que le Brésil, il faut aller en Afrique. La Namibie, par exemple, mais il y en a très très peu dans le monde. L'indice de Gini, là, il a grimpé dans quand même de plus de 10 points depuis le retour de la récession. Et avec les inégalités, ce qui grimpe, c'est le sentiment d'insécurité des classes moyennes. Et la frustration des classes populaires. Frustration des classes populaires, on comprend assez bien. On n'a pas d'autre chance. Insécurité des classes moyennes, bah, c'est justement comme les inégalités montent, l'insécurité a tendance à monter, la criminalité. Mais pour ces classes moyennes, et en particulier le bas des classes moyennes, qui avaient profité énormément des années pétées, justement, pour s'installer, trouver du travail, dans des bonnes conditions, sortir de la précarité, et bah, c'est soit le retour à la case départ, soit la peur du retour à la case départ. Et en même temps, là-dedans, dans ce marasme généralisé, il y a une partie de la population qui continue de prospérer sans subir la conséquence de la montée des tensions. C'est la classe possédante.
Mais ça, c'est pas spécifiquement brésilien, c'est un peu universel en ce moment, non?
Ouais, on va dire que c'est beaucoup plus marqué au Brésil. Et donc ce retournement de tendance, il amène énormément d'électeurs à Bolsonaro. Parce que Bolsonaro, justement, c'est celui qui va apparaître comme celui qui va les défendre contre l'insécurité économique, contre la montée de la criminalité, contre la persistance de la corruption. Mais évidemment, ça suffit pas à expliquer ce qui se passe. Et il y a un coup de pouce. Et le coup de pouce, évidemment, il vient des classes possédantes. Les classes possédantes ont jamais aimé le PT. Le lobby agro-industriel qui est très puissant, les grands médias privés style Globo qui sont extrêmement puissants au Brésil, ont jamais aimé le Parti des Travailleurs. Ils l'ont toléré. Ils l'ont toléré tant que l'économie allait bien, tant que les profits continuaient de monter. Et à partir du moment où la situation s'est retournée, on a littéralement quasiment putché Dilma Rousseff de manière discutablement légale. Pour remplacer Dilma Rousseff, donc la successeuse de Lula, par Michel Temer, qui est un type qui est beaucoup, beaucoup plus corrompu qu'elle. Et Temer, alors, a été chargé de faire le sale boulot. À partir du moment où il est arrivé au pouvoir, grosse réforme des retraites.
D'où l'expression « nique Temer ».
Et ben, c'est un peu presque disent les Brésiliens, hein, c'est-à-dire qu'ils ne le supportent pas. Donc, impossible de gagner. Et donc, du coup, il fallait qu'il trouve un candidat, la classe dirigeante. Et ce candidat, ils l'ont trouvé, c'était Geraldo Alckmin. Et le type, il a un tel charisme qu'il est surnommé le concombre au Brésil. Et donc ça n'a pas pris. Et finalement, donc ils se sont rabattus sur Bolsonaro. Et là, ils ont mis
les moyens. C'est le cousin d'Edouard Philippe.
Ils ont mis les moyens, couverture médiatique intense, et puis surtout, des fake news. Pour donner un peu l'exemple des fake news, il y a des dizaines de milliers de fake news qui circulent au Brésil, qui vont toutes dans le même sens pour décrédibiliser Haddad et le PT. Il y en a une que j'ai trouvée particulièrement merveilleuse. Elle représentait, c'est un photomontage qui représente la colistière de Haddad en train de donner, le biberon à son fils, et la tétine du biberon est en forme de pénis. Pour bien montrer qu'ils ont un rapport au genre particulier. Mais évidemment, il y a eu d'autres soutiens pour Bolsonaro. C'est les évangélistes. Et les évangélistes, c'est 20 millions de personnes au Brésil. Par exemple, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Lucas, est un fan de Bolsonaro. Pourquoi ? Parce que Lucas est extrêmement croyant. Et que les églises évangéliques ont dit qu'il fallait voter Bolsonaro. Et puis, évidemment, il y a quand même quelque chose qui reste. Et ça, c'est structurel au Brésil. C'est quand même un vieux racisme social. Le pays s'est construit sur des inégalités profondes, sur l'esclavage, sur le travail des travailleurs agricoles dans des conditions extrêmement dures. Et les classes moyennes supérieures qui sont cultivées, qui font des études, qui se gaffent pas de telenovelas, qui regardent pas forcément Globo, vont quand même voter Bolsonaro parce qu'elles ont jamais aimé que des gens comme Lula ou Dilma Rousseff, qui venaient des classes moyennes, des classes populaires, arrivent au pouvoir. Pour lutter contre ça, contre cette résistible ascension de Bolsonaro, il y a une association qui existe en France qui s'appelle Autre Brésil, qui appelle un rassemblement à Paris le 20 octobre, place Stalingrad. J'ai oublié l'heure, mais je vous le dis quand même. Voilà.
Alors, on n'a pas le temps de faire l'agenda, mais juste pour ce week-end, si vous voulez vous occuper, ben, le samedi 13 octobre à 14h, il y a la marche pour le climat. Le 13 octobre, aussi à 14h, pour aller à Croix-de-Chavaux, à Montreuil, il y a le grand ménage d'automne des banques sales fait par Attaque 93 à Montreuil. Il y a toujours à 20h30, mais le samedi 13, mais à 20h30, place de République, le RAP anti-pub propre qu'on a déjà reçu à la radio, Rallumons les étoiles en éteignant les pubs. Ce week-end, c'est le premier salon du livre social libertaire à Saint-Denis. Et vous pouvez aussi, dimanche, aller faire une manifestation à l'interdiction des armes nucléaires avec l'initiative du mouvement pour la paix, qu'on a reçue aussi il n'y a pas très longtemps. Et ça nous permet de terminer l'émission sur ce petit agenda militant. On remercie notre invitée Lisiane Mangin pour le blog bibliobus.fr.
Merci.
On remercie à la chronique Alex et Jean-Marc. Un petit coucou à Gaël, coincé à Versailles avec une rage de dents. À Jean-Yves, coincé pour d'autres raisons chez lui. Et à Ludo pour la technique. On finit en écoutant Belle Ruche, Clockwatch.